relève de la même logique, c'est-à-dire de travailler plus longtemps dans la vie, progressivement, mais de travailler plus longtemps dans la vie, soit par la durée de cotisation, soit par une mesure d'âge. Ça m'intéresse d'entendre l'avis général, mais en tout état de cause, ce qu'on peut dire, et que nous disions avec le président de la République très tôt, c'est que si nous voulons équilibrer le système des retraites, il faut dire aux Français, clairement, tranquillement, le faire progressivement, que nous allons travailler plus longtemps. C'est ce que semblent dessiner les solutions qui sont posées sur la table par le corps.
Le Premier ministre Édouard Philippe au micro de nos confrères de France Inter.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous écoutez Radio G et c'est maintenant l'oreille curieuse. Bienvenue dans la quotidienne culturelle et locale. Nous sommes jeudi et un jeudi sur deux, on retrouve la chronique science, nature et environnement de Benoît. Rendez-vous en deuxième partie d'émission pour découvrir les actualités de la recherche, peut-être des nouvelles de la biodiversité, sans doute aussi un agenda. Bref, soyez là, cette chronique est toujours un très beau moment. D'abord, je vous propose de découvrir Dédale, ou peut-être de redécouvrir ce spectacle. C'est le dernier spectacle de la Compagnie du Cri. Il nous plonge entre rêve, réalité, nous emmène dans un univers de travail où on ne sait plus trop bien où on est, entre humour, absurdité, et surtout en mélangeant les disciplines du théâtre, de la musique et bien d'autres choses. C'est à voir jeudi prochain, le 28 novembre, à Angers, à la salle Claude Chabrol, à 20h ou à 10h si vous êtes libre. Et j'avais eu le plaisir de recevoir la Compagnie du Cri un petit peu plus tôt, il y a un petit moment, c'était en 2018, en avril, et je suis très heureuse de vous proposer de les réécouter, et de redécouvrir, Dédale. Voilà, on va plonger avec la Compagnie du Cri directement dans Dédale. C'est à nouveau Annelie derrière le micro, c'était le cas, on se retrouve en direct juste après.
Je vois des formes géographiques, géométriques, des lignes. Je suis entouré de lignes, des lignes horizontales, verticales. Toutes ces portes, tous ces passages, portes sans portes, juste ouverture, ouverture.
Toutes ces portes
vers un autre espace, vers une autre pièce. Et toutes ces pièces s'imbriquent, se collent les unes aux autres. C'est chez moi. C'est chez vous. Et j'avance dans ce labyrinthe. Des dalles. Sans être perdu. Comme si je connaissais déjà la pièce suivante. J'erre, mais j'avance. Pas vraiment perdu dans le labyrinthe, je suis plutôt retrouvé. Je m'y retrouve, je me retrouve, je me trouve. dans ce labyrinthe. Enfant, je rêvais toujours de...
Alors, on entendait un extrait du spectacle Dédale. On entend encore un petit peu. Un spectacle de la Compagnie du Cri. Et je suis avec Fabio, Fabio Longoni. Bonsoir, Fabio.
Bonsoir, Anneli.
Et avec Olivier, Olivier Messager.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à Radio G. Alors là, on était dans Dédale, une de vos créations. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur la Compagnie du Cri. C'est une compagnie qui existe depuis 2006. Alors j'ai vu compagnie pluriartistique et puis une compagnie qui a quand même plein d'horizons. Aujourd'hui, quelle est votre direction artistique ? Il y a des choses qui se jouent entre le théâtre, l'écriture, la musique. Fabio, tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, la compagnie a été créée donc en 2006. Et initialement, c'est une compagnie de théâtre. Hein, j'avais travaillé sur le masque et sur l'écriture déjà. Ça, c'est quand même un des premiers liens qu'il y a avec aujourd'hui. Et depuis 2011, je travaille avec Olivier, donc Olivier Messager. Et toutes nos créations sont le fruit de notre collaboration. Donc Olivier est musicien, moi je suis comédien, et encore ce sont des cases. Mmh. Et tous les deux, on est auteurs, co-auteurs de nos textes. Donc en 2011, voilà, on a créé Murmure ensemble. C'est parti de là.
Et de Murmure est partie un petit peu cette nouvelle direction de la compagnie, de travailler vraiment sur... sur des choses que vous faisiez vous, enfin des textes.
Bah en fait, ça s'est trouvé comme ça. On a fait Murmure pour le plaisir de travailler ensemble, parce que on avait pas mal d'affinités. Et puis, de fil en aiguille, on a mené un vrai travail de compagnie. Aujourd'hui, Dédale, c'est notre troisième spectacle ensemble. Sauf que Murmure, c'est en duo acoustique. On n'est que tous les deux. On continue à le jouer. Du reste, on l'a joué dans plein de conditions différentes. Et après Hurlement, c'est la version rock'n'roll de Murmure. Les deux se répondent aussi avec les deux mots, simplement. Mais sur Hurlement, on est 5 sur le plateau, on est 8 en tout dans l'équipe. Ça fait beaucoup plus de bruit, tout est amplifié. Là, on est dans un rapport frontal standard au public. Parce et Dédale, c'est encore autre chose.
Ouais, Murmure, c'était vraiment une pièce très proche du public, un peu en acoustique. Vous étiez deux, quelque chose d'un peu plus ténu.
Oui, et là, complètement acoustique, oui.
Ouais.
Mais c'est le travail, que ce soit de Murmure, Hurlement ou Dédale, on écrit à deux.
On essaye d'être cohérent à ce niveau-là parce qu'on a commencé avec Murmure, on a commencé à mélanger nos écritures et au fur et à mesure, par exemple, Dédale, à contrario des deux autres créations, est une seule histoire. Mm. Un seul fil tendu qu'on suit du début à la fin. Mm. On avait eu envie de se confronter à cette contrainte-là.
Ouais.
Et sur Hurlement, en plus sur du plateau, il y a évidemment son et lumière. Donc on a notre architecte sonore, Gwen Labarta, qui est une figure angevine sonore, un sorcier du son, qui est là depuis une trentaine d'années, hein, qui travaille dans plein de différentes formations musicales ou théâtrales ou d'autres, voilà, pour mettre des cases encore, qui transforme le son sur scène en direct, qui amène des échos, des effets. Et tout ça, comme c'est du théâtre aussi, hein, la metteur en scène Juliette Erringer, ouais, qui travaille notamment au Resilux, a mis en scène cet ensemble-là, pour qu'il y ait une cohérence scénique.
Et justement, par rapport au lien entre le texte, entre le son, enfin moi, quand j'entends Compagnie du Cri, Murmure, Hurlement, je me dis qu'il y a quelque chose qui se joue aussi avec le son. Est-ce que vous travaillez un petit peu plus avec la matière sonore, avec les musiques, ou aussi vraiment avec la signification des mots ?
C'est une part essentielle de notre identité, je crois. Parce que le fait de tordre les sons, de les transformer, d'avoir recours à des instruments inédits ou des sons carrément très peu usités, dans Dédale, Yvan Guillonnet a créé des instruments qu'il utilise pour le spectacle. Je pense que ça donne vraiment une couleur qui nous est spécifique.
Il a créé des instruments, c'est de la lutherie un petit peu expérimentale ou...
Un petit peu, il joue entre autres sur une table sonore qui sert à la fois de percussion et sur laquelle il y a des cordes tendues sur lesquelles il peut jouer à l'archet. Et comme on est dans une entreprise, on est les collègues de travail du personnage joué par Fabio, ça permet de tout détourner.
Et on retrouve Gwen qui transforme le son en direct depuis le plateau et même qui joue dedans.
Vous, c'est vraiment la création qui va inclure plein de chants en fait finalement, vous n'êtes pas juste... Pas juste une compagnie de théâtre.
Non, c'est une compagnie de théâtre et de musique, mais aussi de poésie, mais aussi avec des effets dub, avec plein de choses. On donne des ateliers d'écriture d'ailleurs en parallèle, sur tout le territoire Loire-Authion.
Des jeunes, des adultes, des enfants.
Voilà, des gens âgés, des classes de primaire, des lycéens, des bénévoles des médiathèques. Et à chaque fois, ça donne des choses étonnantes.
Et tout à l'heure, Olivier, tu nous parlais de Dédale. Tu me disais, là, c'est très différent. C'est vraiment un spectacle qui est centré sur une histoire, un récit, un personnage.
Oui, disons que le constat d'étonnement qu'on fait, c'est qu'on ne s'attendait pas à faire un spectacle aussi drôle.
Alors
et
pourquoi...
les gens rient énormément.
Alors ma première question, ce serait pourquoi vous pensiez qu'il n'allait pas être drôle? Est-ce que c'est un spectacle sur un sujet pas marrant?
C'est un spectacle sur les rêves, sur un personnage qui est ballotté entre rêve et réalité, et on suit ce personnage dans son lieu de vie et surtout dans son cadre de travail, où les trois musiciens jouent les trois collègues du personnage, et on s'amuse à jouer entre les deux états et à perturber aussi et le personnage et le public. Et le ressort du comique, de l'humour, permet aussi de tempérer les moments qui peuvent se rapprocher du cauchemar.
Mmh. Oui.
C'est qu'on nous renvoie souvent, et puis on en est conscient, qu'on a un univers assez barré, entre guillemets, même si moi je trouve ça relatif. Qu'est-ce qui est barré? On rêve tous, on vit tous des moments étranges et bizarres, et nous on aime bien mettre ça en avant. Mais on se doute bien qu'on renvoie ça au public. On dit « Ah oui, vous faites, c'est super ce que vous faites, mais c'est un univers assez barré, étrange. » Et quand on est parti sur le rêve, on a senti les programmateurs, les salles, les personnes à qui on expliquait le spectacle, qui n'était pas encore créé, dire « Ah bon, ça va être bien barré ce qu'ils vont faire, ça va être intéressant. Voilà. »
Et quand on vous a étiqueté barré.
Oui, voilà.
Oui, oui.
Du cri, barré.
On en joue aussi, mais c'est naturel pour nous. Voilà.
Atypique aussi.
Oui.
Voilà. Ça revient souvent.
Oui.
Atypique.
Et le résultat finalement du spectacle, en travaillant sur des personnages, en travaillant sur le monde de l'entreprise, parce qu'on tenait à l'ancrer dans quelque chose de réel qui concerne les spectateurs, dire tiens, ils peuvent se reconnaître.
Ouais, Dédale, c'est vraiment le labyrinthe de l'entreprise.
Le labyrinthe, voilà, il y a ça, il y a entre les rêves et la réalité. Mais finalement, les spectateurs, dès le collège, hein, des collégiens sont venus qui n'étaient pas sensibilisés forcément. On le joue depuis plusieurs mois, on rit, se sont liés aux personnages, se sont reconnus dedans. Ça a parlé de solitude aussi. J'ai rencontré des lycéens qui m'ont parlé du spectacle. Ça m'a renvoyé ça sur la solitude. Il y a des choses de l'enfance qui ressortent.
Voilà. Est-ce que c'était une surprise que le rire arrive?
Autant oui.
Pour vous?
Oui, oui. Et tant mieux. Hein. Mais autant
oui. Disons que la dernière fois qu'on a joué, c'était au Théâtre Champ de Bataille. Et c'était très agréable pour nous parce qu'on a joué trois soirs devant trois salles combles. Et le samedi, le public était chaud bouillant. Ils étaient hyper réactifs.
Alors que j'imagine que ce personnage entre rêve et réalité, pour lui, c'est peut-être pas si rigolo, non?
Enfin, non, pas toujours, mais
la fin, ça va.
On joue sur ce moment de trouble. On a tous vécu ça.
Ouais.
Comment peut-on être vraiment sûr qu'on n'est pas en train de rêver, après tout? Quand on a des souvenirs, est-ce que j'ai rêvé ça ou c'est un souvenir?
Déjà
des blessures de l'enfance qui n'ont pas été résolues, voilà, ce genre de choses. Ou évidemment, en scène de Jodorowsky, etc.
Choses un peu mystérieuses.
Ouais.
Et là, vous parlez vous parlez de consommation, de rêves, d'enfance, enfin des choses qui nous questionnent tous. Est-ce que vous, c'est votre désir de travailler vraiment sur ces choses très larges? Enfin, qu'est-ce qui pour l'écriture?
Plein de choses. On est tous les deux des boulimiques, des dévoreurs de forme artistique au sens le plus large qui soit. On est tous les deux des fans de musique autant que de cinéma. Et le fait d'aimer autant de choses différentes, je pense, nous incline à vouloir suggérer des choses, et surtout pas imposer, que chacun puisse et que ça soit le plus en un autre vu quelque chose, mais vécu quelque chose.
Et aussi là récemment, ça m'a fait plaisir, je trouvais ça intéressant comme retour sur notre travail, c'est avec la compagnie du Cri, on ne sait pas ce qu'on va voir, mais on est content en ressortant.
Et on est toujours surpris.
On est toujours surpris, voilà. Et je dis, ah bah oui, pourquoi pas. Nous, on se rend pas compte, on crée notre... Voilà. Et comme disait Olivier, moi, je suis collectionneur aussi de vinyles, et je travaille parfois avec des DJ aussi, DJ Spock, on travaille ensemble pour présenter des vinyles, pour raconter l'histoire des vinyles. Avec Olivier, on a des cultures communes sur la science-fiction, l'anticipation, sur plein de choses, et on a des cultures complémentaires.
Moi,
je suis un grand fan de hip-hop, Olivier d'autres genres de rock, pop, et du...
On sent bien que vous allez piocher un peu partout et puis que ça fait des surprises.
J'ai fait un rêve étrange là ce matin.
J'étais dans un édifice mi-ouvert, mi-clos, moitié ruine, un petit bâtiment neuf.
Ah, t'es parti ? Tu viens pas boire l'apéritif ? Ah, ma femme va être déçue. Ce soir, on s'était dit, c'est apéritif.
Hé, hey, les gars, vous connaissez la différence entre un pigeon ?
Benoît, tu nous fais un café ?
Ah,
bon, bah, il doit y avoir encore des choses à terminer au travail.
Je le servais, c'est vrai.
Bonjour, on est au service livraison. Comment puis-je vous aider ?
Je me sentais comme chez moi. Odeur familière.
Candélabre, pas grossière.
Fragrance d'encens.
Et des ouves jupe en moque en servi le Civeres Soreno aux jambes.
Ah bon ? C'est pas bon le barbecue ? Mais moi, tous les enfants en mangent, le grand, le moyen, le petit, tout le monde en mange.
On était avec la Compagnie du Cri pour parler du spectacle Dédale. Vous pourrez le voir jeudi prochain, le 28 novembre, à la salle Claude Chabrol à Angers. C'est à 10h ou à 20h. J'espère vous avoir donné envie d'aller le voir. Toutes les infos sur le site de la Compagnie du Cri. Qui du Cri ? Alors qui, c'est pour compagnie en abrégé, C-I-E. compagnieducri.com. Et vous écoutez bien sûr Radio G et en ce moment L'Oreille Curieuse, la quotidienne culturelle et locale. Je vous propose de découvrir le dernier morceau réalisé par Flavien Berger. Il s'intitule Deep Sea Blue Song. Moi je l'aime beaucoup et j'espère que vous aussi. On retrouvera Benoît pour la chronique Science Nature Environnement juste après.
Swallowing sea, swallowing air, swallowing sea.
my eyes. You touch my heart.
Laisser le temps à Benoît d'arriver avec un morceau de chanson. C'est Anne Sylvestre et je le passe peut-être en lien avec une grande marche qui est organisée ce samedi 23 novembre contre les violences sexuelles et sexistes, mais cette chanson est aussi assez amusante.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances. Elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comment on enfonce? Elles seraient bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances. Elles ne feraient plus rien. Toutes les
pas encore en vacances, dans l'oreille curieuse sur Radio G, on va retrouver la chronique Science, Nature et Environnement de Benoît. Salut Benoît.
Salut Annie, bonsoir à tous.
Ça va ?
Ouais, ça va bien.
Alors, quelles sont les nouvelles que tu apportes dans ta chronique aujourd'hui ?
Les nouvelles sont nombreuses, tu imagines. Et oui. On va commencer comme d'habitude par un petit agenda de l'actu scientifique ou technologique. Et ce soir, ça sera plutôt technologique. Tu dois le savoir, et en tout cas les auditeurs de Radio G doivent le savoir, c'est la Connected Week en ce moment. Donc c'est un événement qui a lieu depuis plusieurs saisons maintenant, et comme son nom l'indique, c'est la semaine connectée, voilà, je sais pas si on peut, c'est une bonne traduction.
Nouvelle technologie.
Mais voilà, nouvelle technologie et réseau et internet et compagnie. Cette année, bien sûr, orientée sur le thème de la ville intelligente, la Smart City.
Grand enjeu. Voilà. Ouais.
Donc c'est un enjeu, et notamment un enjeu local, puisque Angers s'est positionné comme une ville leader en fait dans le domaine, avec un projet à près de 180 millions d'euros sur les années à venir, vraiment sur la ville intelligente. Donc alors je vais faire un très gros résumé. C'est, en gros, c'est des capteurs partout pour améliorer le fonctionnement de la ville.
Par exemple, arroser là où c'est sec.
Voilà, c'est ça.
Très
et puis,
pragmatique.
Pas arroser quand il pleut.
Ouais.
Alors que des fois, oui. Ou pas arroser avec des capteurs d'humidité, on peut savoir. Mmh. Éteindre l'éclairage quand on n'a pas besoin. Donc avoir des détecteurs aux endroits où quand quelqu'un passe, la lumière s'allume, etc. Et surtout, ça intéressera les automobilistes, des capteurs sur des feux. Tous les carrefours, les feux de circulation, ça évite à 11h30 du soir de se retrouver à attendre 2 minutes à un feu rouge alors qu'il n'y a strictement personne dans les rues. Alors c'est pas long, 2 minutes, mais c'est très très pénible d'attendre 2 minutes des fois quand il n'y a rien autour de soi.
Oui.
On est bien d'accord.
On est d'accord.
Bon voilà, alors la Connected Week, donc c'est pas mal d'événements. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous, et notamment la journée de samedi, le 23 novembre. Ça se passe... au centre des congrès, le nouveau centre des congrès.
Ouais.
Donc là, c'est journée famille. Hein, vous pouvez venir vous informer sur les cultures numériques. Donc, vous pourrez trouver des réponses à toutes les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un territoire intelligent? Comment crée-t-on un jeu vidéo? Quel est le fonctionnement d'un robot? Le code, c'est quoi? Tout ça, c'est programmé, évidemment. Hein, mais si personne n'apprend à programmer, c'est bon. Voilà. Quels sont les impacts de ces technologies sur les métiers, de tous les secteurs d'activité, etc., etc. Donc, tout à fait intéressant. Il y a des animes pour les enfants. On peut créer des consoles de jeux à l'ancienne, découvrir la programmation de manière
génial,
assez ludique.
Ouais.
Donc c'est vraiment sympa. Ça, c'est au centre des congrès. Et en parallèle, il y a depuis du 13 au 30 novembre, dans le cadre de cet événement, il y a le Bibliolab. Ça, c'est organisé dans le réseau des bibliothèques de la ville.
Le Bibliopôle ?
Non, les bibliothèques
de la ville. Ah oui.
Les bibliothèques de quartier, Montplaisir, Arroseray, Toussaint, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'animations qui ont lieu dans ce cadre-là. Donc, mercredi 27 et samedi 30 novembre, donc c'est la semaine prochaine, initiation au codage avec des logiciels simples, c'est très bien pour les enfants. Donc, c'est 9-12 ans, c'est à la bibliothèque Mandela. Donc c'est mercredi et samedi après-midi, donc 27 et 30 novembre à 15h30. Bon, pour tout ça, il vaut mieux appeler pour réserver, parce que je pense que c'est des ateliers en petit format.
Petite jauge.
Voilà. Découverte des robots, donc programmer ces robots, les construire, les programmer, c'est pour les plus petits encore, 4-8 ans, c'est le 30 novembre, aussi à Nelson Mandela, mais c'est le matin.
Ok.
Le matin, on a le 22 novembre, donc c'est demain soir,
oui.
À partir de 15h à la bibliothèque Mon Plaisir, donc c'est initiation aux outils numériques. Donc en gros, c'est utiliser des ordi, des tablettes, pour les gens qui sont pas très familiers avec ça.
Et c'est pas si simple.
Non. Et le but, c'est un peu aussi de réduire la fracture numérique, hein, parce que tout ça, ça peut faire peur, hein, évidemment, quand on n'est pas un peu dans le coup. Aussi, Un petit jeu, emprunter un bibliothécaire, donc c'est samedi prochain à 10h30 à la bibliothèque Saint-Nicolas. Donc l'idée, c'est résoudre une question liée à l'utilisation d'une tablette tactile. Je ne connais pas le détail. Le même samedi, mais à bibliothèque Annie Fratellini, donc pas très loin d'ici, on a créé ta BD. Mmh. Voilà, donc sans doute en utilisant des outils numériques. C'est de 15h à 16h30, samedi 23 novembre. Enfin, le repère café de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin se délocalise à la bibliothèque Mandela. Donc c'est un peu au-delà du numérique, hein, mais on peut venir faire réparer, bricoler, comprendre le fonctionnement de tous les objets, donc que ce soit des vêtements, des vélos, mais aussi du matériel informatique ou des appareillages électriques. Oui. Donc ça, c'est sympa pour les amateurs de bricolage
et
de réparation.
Chercher ensemble comment le réparer.
Exactement.
Avant de le jeter.
Ouais. Voilà. Super sympa. Donc voilà, ça fait pas mal d'activités. Ouais. Vous retrouvez toutes ces infos sur le site web connectedweek.angers.fr. Il y a un truc comme ça, je crois. Ça se retrouve assez facilement sur le web.
Ouais. Sinon, le site des bibliothèques municipales.
Aussi, ouais.
Allez.
Donc toutes les infos de la ville sont sur Internet. Mmh. On passe à quelques actus scientifiques, si j'ai encore du temps, bien entendu.
Oui, on a encore du temps, bien sûr.
Super. Donc, on parle souvent d'environnement ici. Et dans l'environnement, il y a des petites bêtes qui sont extrêmement importantes et qui sont à l'origine de beaucoup de choses. Ce sont les vers de terre.
Ah, très très important.
Eh oui, très important. Alors, figure-toi qu'il y a des chercheurs de Leipzig, en Allemagne, qui ont voulu vraiment faire le point. Ils se sont dit, bon, ça y est, ça fait longtemps qu'on travaille sur les vers de terre. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On fait le point. Et donc, pour faire le point, ils ont récolté toutes les informations sur les vers de terre qui ont été publiées par les chercheurs dans le monde entier. Ils ont référencé aussi tous les chercheurs qui travaillent sur les vers de terre. Alors, figure-toi que, bon, ils ont... agrégé un certain nombre de données et notamment repéré que 141 scientifiques ont fourni leurs chiffres pour leur étude et ça correspond à 6900 sites dans 57 pays, des sites où ont été étudiés les vers de terre. Donc, alors bien sûr il y en a en France, il y a des chercheurs en France qui s'intéressent aux vers de terre, notamment à la fac de Rennes me semble-t-il. Donc ces résultats ont été publiés. Et il montre que les changements climatiques pourraient avoir des effets assez importants sur les vers de terre. Notamment parce qu'ils sont sensibles aux précipitations et aux températures. Alors il faut savoir qu'un vers de terre, par exemple, il n'y en a pas dans les zones tropicales, il y en a très peu. Alors que la biodiversité en vers de terre est très importante dans les zones tempérées. Donc les vers de terre, ils sont un peu c'est mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit trop sec, sinon ils aiment pas du tout, et pas que ça soit trop humide, si c'est inondé, ils aiment pas du tout non plus. Donc la terre dans les zones tempérées, chez nous par exemple, c'est quelque chose qui leur correspond bien. Alors il faut savoir que les vers de terre sont très très importants pour la bonne santé des sols. Pourquoi ? Parce que un vers de terre, qu'est-ce que ça fait ? Ça passe son temps à manger dans le sol. Alors il avale, il défèque, il avale, il défèque. C'est un flux continu, c'est une sorte de tuyau. Et par contre, ce travail-là, il remue les sols, il contribue à l'absorption des matériaux organiques et surtout il laisse du vide dans le sol. Le sol ne doit pas être plein. Un sol en bonne santé, c'est avec plein de vide. Donc ça permet la circulation des fluides gazeux, des gaz, les échanges de molécules. Et donc ça, c'est très important pour la santé des sols. Et d'ailleurs, dans une des grandes menaces qui pèsent sur les sols, hormis leur disparition, par exemple, dans les zones urbaines, c'est le compactage des sols. Donc ça, c'est très mauvais. Donc en tout cas, les 6000 espèces de vers de terre qui sont connues sont vraiment importantes aujourd'hui et il faut préserver les vers de terre pour préserver les sols, bien entendu. Un petit chiffre pour terminer cette information. On peut trouver dans certaines zones jusqu'à 150 vers de terre dans un mètre carré. Alors... pas dans une grande profondeur. Hein. Donc, ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi, les auditeurs pourront peut-être rechercher ça, une action de science participative où les gens sont appelés à faire un inventaire de vers de terre dans une superficie donnée, à un endroit donné. Alors, c'est assez rigolo. Ça a été commencé pour les professionnels de l'agriculture, pour déterminer aussi la qualité des champs et l'impact aussi des produits qu'on met dans les champs. Et donc le principe, c'est sur un mètre carré, enfin, ou une plus petite superficie, on compte les vers de terre. Alors comment faire? Parce que si tu regardes une pelouse ou un morceau du jardin, on les voit pas, les vers de terre. Alors il y a une solution qui est un peu barbare, mais finalement sans danger pour les vers de terre, c'est de diluer de la moutarde dans de l'eau.
Oui.
Un gros, beaucoup de moutarde dans de l'eau, et puis on verse dans le périmètre donné. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, tous les vers de terre arrivent, hein, parce qu'ils détestent ça. Ça les irrite.
C'est affreux. Ça permet de les
compter. Alors bien entendu, prévoyez un seau avec de l'eau claire pour les rincer, et après vous les remettez dans la terre, il n'y a aucun problème pour eux. Mais c'est une méthode pour arriver à compter les vers de terre, parce qu'ils sont assez inaccessibles. Hein.
Oui, sinon il faut creuser, pas les abîmer, compter, c'est tout un bazar, quoi.
Exactement. Donc voilà, alors vive les vers de terre et puis préservez les sols.
Allez, une activité, compter les vers.
Alors, dans le sol, on ne trouve pas que des vers de terre, figure-toi. Mmh. Notamment au Mexique, où il a été trouvé il y a très peu de temps, dans la ville de Tultepec, donc dans l'état de Mexico, donc c'est en plein milieu du Mexique, à peu près 40-50 km de Mexico. Eh bien, ils ont découvert d'immenses fosses dans lesquelles... ont été exhumés 800 os appartenant à des mammouths.
Oh, génial.
Des mammouths qui sont datés d'à peu près 15 000 ans. Et alors figure-toi, bon, des mammouths, on en a déjà trouvé plein partout. Alors déjà, là, il y en a beaucoup. Mmh. Et ce site serait le premier site qui attesterait de la construction d'un piège par les hommes pour capturer les mammouths. Alors en fait, il y a deux grandes fosses qui mesurent 1,50 m de profondeur et 25 mètres de long, dans lesquelles peut-être les hommes auraient précipité par effarouchement ou voilà, poursuite, des troupeaux de mammouths. Pour après les chasser beaucoup plus facilement, hein, puisque même si le trou est peu profond, 1,50 m, eh bien un mammouth peut pas monter un mur d'un mètre, enfin
ouais, franchir
un obstacle d'1,50 m.
Ouais.
Donc ça facilite après, on va dire, l'abattage des animaux. Donc ils ont notamment retrouvé 8 crânes complets, des mâchoires, une centaine de vertèbres, des pleins de côtes, des omoplates. Donc ça correspond à beaucoup, beaucoup d'individus, alors au moins 8, hein, puisqu'il y a 8 crânes. Donc c'est sûrement le site qui... Alors les études sont en cours, hein, mais qui va apporter la preuve que les hommes attaquaient bien les mammouths. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on supposait. On a trouvé par endroits des accumulations de mammouths, et on imaginait qu'ils pouvaient être précipités au niveau de falaises ou autre. Mais il n'y avait jamais vraiment de preuves tangibles. Là, en l'occurrence, il y a des traces qui montrent que ces grandes fosses ne sont pas naturelles. Ouais. Donc, tout à fait intéressant. Affaire à suivre. Hein, on suivra les publications liées à cette découverte. Pour terminer, si j'ai encore quelques minutes...
Oui, allez.
Ah, tu me regardes avec des gros yeux, mais on va prendre le temps.
On peut déborder.
On va prendre le temps. Une minute, il reste. Ouais, je vais aller super vite, et puis c'est pas une bonne nouvelle, donc voilà.
Mais on peut déborder, c'est pas grave.
Si je te dis Chine.
Oui, je pense pollution.
Ouais, alors déjà oui, mais la pollution, pourquoi? Parce que là-bas en Chine, il y a 1,4 milliard d'habitants, c'est énorme. Alors qu'est-ce que ça génère, les habitants?
Des humains, ça génère des déchets.
Voilà, beaucoup de déchets, beaucoup, beaucoup de déchets. Alors, les autorités chinoises prévoient des solutions, c'est les mêmes que nous, hein, c'est enfouissement des déchets ou alors incinération des déchets. Hein, c'est pas forcément des super trucs, mais ils avaient imaginé dans la province du Shaanxi, la ville de Xi'an, un immense dépotoir, en fait, hein, pour l'enfouissement. Donc, ça a été créé il y a quelques années déjà. Hein. Hélas, les prévisions de remplissage ont été complètement revues à la hausse.
Oui.
Et que, avec 25 ans d'avance, le dépotoir s'est rempli.
C'est quand même beaucoup, 25 ans d'avance.
D'accord. Et pourtant, la décharge avait la taille d'environ 100 terrains de football. Donc, elle avait été conçue pour recevoir 2500 tonnes de déchets par jour. Et figure-toi qu'elle en a reçu 10 000.
Ouais.
Donc, c'est énorme, c'est le plus grand site d'enfouissement de déchets. Donc, voilà, la Chine, alors le pays le plus peuplé du monde, plus gros pollueur du monde aussi. Hein. Donc, pour eux, c'est un enjeu, hein, les déchets, évidemment. Il hein. ne faut pas
pour
croire
tous,
qu'ils
ouais.
ils polluent gaiement et on y va. Non, pas du tout. C'est un vrai enjeu de santé publique, c'est un enjeu de société. Et du coup, ils commencent à prendre, les Chinois, des mesures drastiques sur le recyclage, le tri, et ce qui met un peu en panique les gens dans certaines villes. Donc voilà, la problématique des déchets, elle n'est pas valable que chez nous, elle est valable surtout dans les grands pays comme ça. Il faut rappeler qu'en 2015, il y a un grand glissement de terrain dans une décharge publique en Chine qui avait fait 73 morts. Il faut savoir que le tas de déchets qui était prévu pour faire 4 millions de mètres cubes et 95 mètres de haut, c'est énorme, hein. Eh bien, faisait 5,8 millions de mètres cubes et parfois 160 mètres de haut. Il y a eu des éboulements, des glissements de ces déchets et résultat, beaucoup de victimes. Donc, une des mesures prises par le gouvernement chinois pour abaisser en fait le traitement des déchets, c'est que ils ont décidé de stopper le traitement des déchets de pays étrangers. Parce qu'en plus, figure-toi qu'ils accueillaient les déchets des autres pays.
Hein. Les nôtres.
Par exemple, en partie, pas tous, mais certaines catégories de déchets. Donc ça s'est arrêté. Maintenant, chacun pour soi dans les déchets et aux États, à tous les États, de mettre en place des politiques intelligentes, on va dire, de traitement des déchets.
De pas juste stocker là.
Voilà, il y a un vrai enjeu que nous, on voit pas trop parce que encore en France, on n'est pas trop nombreux. Et c'est assez bien organisé, mais il y a quand même des problèmes. Il y a certains déchets qui posent problème. Mais alors, dans des pays comme la Chine ou d'autres extrêmement peuplés, et ça pose problème. Donc voilà, c'était une info qui fait réfléchir, et c'est parfait pour finir cette chronique.
Bah oui, on va vous laisser avec un peu de réflexion. Merci beaucoup, Benoît. On se retrouve dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
Nous, dans l'émission, on se retrouve lundi à 18h10 pour une nouvelle édition de l'Oreille Curieuse. D'ici là, vous pouvez écouter Radio G, sortir, découvrir toutes les choses dont on vous a parlé. Voilà, à 19h, vous retrouverez l'émission Droit Devant avec Amnesty International. Bonne soirée et à lundi. What's going on? What's going on?
Radio G. 101.5 FM.